Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farroux sur France Bleu.
Avant le quart de finale de la Coupe du Monde de football féminin demain, qu'on va vivre évidemment sur France Bleu, on a un championnat de France à vous présenter. La 7e édition du championnat de barbecue qui se déroule ce week-end dans les Bouches-du-Rhône au Sainte-Marie-de-la-Mer.
Avec 9 prix mis en jeu. Bœuf, porc, poulet, taureau, agneau, poisson, légumes, burger et dessert. Tiens, un dessert au barbecue.
Ça surprend un petit peu, oui. Chaque recette ou création sera évaluée par un jury d'experts et c'est le fondateur du championnat qui est avec nous. Bonjour Jean-François Dupont.
Bonjour.
66% des Français sortent leur barbecue avec l'arrivée des beaux jours. C'est devenu un loisir incontournable, mais là on est d'accord, ce qui se passe ce week-end au Sainte-Marie, c'est de compétition qu'il s'agit.
Exactement, là on a le gratin des grilladins, les meilleurs de France, qui viennent concourir donc dans ce concours de cuisine au barbecue, en essayant de présenter leurs meilleures créations possibles, mais ce qui n'empêche pas la bonne humeur, la convivialité, le partage, qui sont quand même les valeurs essentielles du barbecue.
Pour les 9 catégories, à chaque fois ce sont les mêmes règles, 2h30 de préparation.
Voilà, le principe c'est qu'ils ont tous le même barbecue, tous le même morceau de viande, et après ils ont 2h30, donc où ils doivent faire étalage de leur technique et surtout de leur créativité, de leur originalité, parce que ce qu'attend le jury, c'est d'être surpris, c'est d'avoir des choses qui sont un peu nouvelles, inédites.
Alors, puisqu'on a affaire à des pros du barbecue, ce que nous ne sommes pas forcément, vous cuisinez comment ? Charbon de bois, gaz ou électricité ?
Alors, on dit que toutes les énergies se valent hein, au barbecue. Et d'ailleurs, quand on fait des dégustations à l'aveugle, il faut vraiment avoir le palais très fin pour arriver à faire la différence. On reconnaît un peu le charbon de bois parce qu'il a un petit goût de fumée. Et nous, le championnat se fait sur des barbecues à couvercle Weber, donc au charbon de bois. Ils ont tous le même et on met à leur disposition un outil qui leur permet vraiment de cuisiner et de faire des créations tout à fait exceptionnelles.
Quelle est la catégorie la plus difficile ? Et puis, on vous demandera aussi ensuite le dessert. Comment on fait des desserts sur barbecue ?
Des bananes flambées, peut-être.
Alors, la catégorie la plus difficile, c'est sans doute celle où il y a le plus d'inscrits. Et donc, c'est le porc et le poulet, parce que finalement, ce sont des viandes qui sont très accessibles, qui sont assez peu onéreuses. Et donc, je pense que les gens pratiquent beaucoup ces viandes-là au barbecue. Et après, le dessert, c'est une épreuve très technique. Bon, évidemment, c'est beaucoup à base de fruits. On a beaucoup de brochettes de fruits. L'année dernière, on a eu des tartes, des gâteaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au couvercle, on arrive à avoir un système de convection, en fait. Donc, on a une chaleur qui est assez régulière. On conserve un peu l'humidité. Donc, ils arrivent à faire des desserts très surprenants. Et l'année dernière, effectivement, c'était un entremets avec des fraises,
incroyable,
des fruits frais qui étaient grillés. Et c'était vraiment, vraiment délicieux.
Un entremets au barbecue, on en apprend tous les jours. Les équipes sont beaucoup plus masculines que féminines. Mais je me rappelle très bien, l'an passé, on avait repéré l'équipe, les filles à côtelettes. Elles sont bouchères, éleveuses et ingénieures agronomes.
On va découper notre rhum steak pour qu'il soit bien fin. On va les rouler, le ficeler et après découper en parts. On est souvent en train de nous dire c'est bien, vous mangez de la viande les filles. Mais quand on veut en reprendre, on nous regarde un peu les gros yeux du style tu vas grossir. On est là, non, en fait, on fait ce qu'on veut. Et puis effectivement, il y a beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui qui nous disent un petit peu ce qu'on doit manger, comment on doit manger tout le temps. Et nous, on est partisanes de dire que les bons produits, c'est bon pour la santé.
Et elles sont là cette année, les filles à côtelettes, Jean-François Dupont ?
Les filles à côtelettes reviennent et elles sont très attendues, puisque l'année dernière, elles ont fini seconde et je crois qu'elles ont une très très grosse ambition cette année. Donc on les attend avec impatience.
Il y a une seule équipe de filles ou il y en a plusieurs quand même ?
Non, il y a plusieurs équipes. On a eu une équipe donc qui ont marqué le championnat qui s'appelait les Cigales. Et là, l'équipe qui a gagné la manche Corse est une équipe 100% féminine qui s'appelle les Flambeuses. Et donc, on a des femmes qui sont au barbecue et j'allais dire quand elles s'y mettent, elles n'ont vraiment rien à envier aux hommes, au contraire.
Oui, parce qu'à la maison, c'est quand même souvent monsieur qui se met au barbecue. On a l'impression que c'est une tâche masculine.
Oui, et madame ne s'occupe que de la salade, du dessert, de faire les courses, de mettre la table, de débarrasser.
Voilà,
mais le monsieur fait le barbecue. Et
il allume le barbecue.
Ouais. Il y a une répartition des tâches, mais en fait, j'ai l'impression que si monsieur se précipite pas, madame est ravie de le faire aussi. En tous les cas, elles le font super bien.
Il y a, on apprend aussi à se servir d'un barbecue pendant le championnat de France. Il n'y a pas que la compétition. Je suppose que vous donnez des conseils de prudence parce que malheureusement, il y a des accidents de barbecue
chaque été
à la maison, voire sur les balcons. On l'a vu encore récemment.
Tout à fait. Nous, notre mission, enfin la mission qu'on s'est fixée, hein, c'est de développer la pratique du barbecue et de développer une pratique qui soit saine et en sécurité. Donc effectivement, les consignes de sécurité sont permanentes, tant dans la cuisson, hein, parce que cuire au barbecue, c'est tout sauf carboniser et brûler les viandes. Donc on est très attentif et on fait passer des messages en permanence. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des règles de base. La première étant qu'un barbecue se fait toujours à l'extérieur, qu'on évite de coller son barbecue à des surfaces ou à des matières inflammables, que si on est un peu organisé, on a autour de soi un jet d'eau ou un extincteur. Enfin, des choses qui sont un peu basiques, mais finalement, qui sont très importantes. Et puis, on fait aussi attention à ses enfants. Et enfin, la légende comme quoi on allume son barbecue et on va faire la sieste, elle est fausse. Non, un barbecue, ça demande une attention permanente pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de cuisine, parce que quand on cuisine, on surveille ce qu'on fait tout simplement et on a envie de le faire.
J'ai un très mauvais souvenir du week-end dernier avec une côte de bœuf grillée, si mon beau-frère m'entend. Voilà, de plus en plus de visiteurs chaque année. Pourquoi, selon vous, il y a vraiment un côté convivial au barbecue, Jean-François Dupont ?
Oui, moi je crois qu'en fait, ce qui plaît aux gens, c'est que c'est une compétition, mais la finalité de cette compétition, c'est de faire un grand repas à la fin tous ensemble. Donc on a des vrais compétiteurs qui sont acharnés sur le stadium et qui, sitôt le jury passé, vont encourager leurs copains. Ils sont hyper solidaires entre eux pendant la compétition. Et le public partage ça, goûte. Participe aux ateliers de cuisine. Il y a aussi beaucoup de dégustations par nos partenaires. On peut goûter des épices, on peut goûter des sauces, on peut goûter des viandes un peu particulières. Donc vraiment, c'est une grosse fête du barbecue. C'est très bon enfant, c'est très familial. Et puis, prendre un repas ensemble, il n'y a rien de mieux.
C'est la base.
Ça, on est d'accord. Hein.
Voilà, c'est la base de tout. Donc là, c'est un repas à 10 000 et donc ça,
ça crée du lien.
Passez-moi le sel. Le championnat de France de barbecue au Sainte-Marie-de-la-Mer ce week-end après des épreuves à Montpellier, l'Alpe d'Huez, Lille et en Corse et avant le festival du barbecue dans la Manche au mois de juillet.
On va se régaler. Merci Jean-François Dupont de nous en avoir parlé aujourd'hui.
Merci
dans Une Heure
beaucoup.
En France.
Merci.
À bientôt. Et bon appétit. Au revoir.
France Bleu. Une heure en France.
Nous aussi, on rallume le ventilateur et on prend le frais maintenant pour vous raconter l'histoire d'une plage, et pas n'importe laquelle, la plage de la Potinière, la plus ancienne station balnéaire dans la Manche.
Oui, il y a le ciel, le soleil et la mer et les dunes et la plage et les cabines de bain blanches et bleues.
Et oui, depuis les falaises du Cap Carteret, le panorama, vous l'avez dit Denis, est époustouflant. Et nous sommes avec un confrère journaliste amoureux de l'endroit. Bonjour Christophe Guillaumard.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis.
Bonjour Christophe.
Alors justement, cet endroit dont vous êtes amoureux, décrivez-le nous si on ne connaît pas la plage de la Potinière.
Écoutez, c'est un coup de cœur, depuis une bonne vingtaine d'années. Effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est le Cap de Carteret, c'est une plage, la Potinière, qui est juste magnifique. C'est un bourg de Carteret avec Barneville réuni depuis 1964. Nous sommes sur la côte des îles. Alors la côte des îles, ça présuppose qu'il y a un bassin de plaisance fantastique. Effectivement, on est juste en face de Jersey, à 22 km à peu près. Il y a Guernesey, bien évidemment. Évidemment, il y a les Écréous, qui est un petit îlot, un petit archipel rocheux, fort sympathique pour aller à la pêche à pied. Et puis il y a Cerques, Hermes, et puis Origny également. Donc bassin de plaisance fantastique, un massif dunaire incroyable, unique en Europe. Une côte magnifique qui s'étend jusqu'à Granville avec tous ces havres qui sont des grands estuaires pour des petites rivières. Il y en a 8 au total sur la côte. Bref, on est bien ici et puis on est vraiment bien en matière de climat puisque c'est 24-25 aujourd'hui et qu'un vent d'est de 4 à 5 Beaufort. On est vraiment bien. Moi, je conseille à tous les Français de venir faire un tour à la Potinière pour se faire du bien.
Alors, peut-être pas tous les Français parce qu'après, ça serait un peu trop fréquenté quand même. Hein.
D'accord.
On sent un peu le poids de l'histoire quand on regarde la station balnéaire qui s'est développée avec l'arrivée du chemin de fer. Alors, j'ai lu un truc extraordinaire, des femmes en maillot 6 pièces qui se...
Changeaient dans les cabines.
Oui, des cabines installées sur des charrettes tirées par des chevaux. Mais ça, c'était avant, c'est plus le cas aujourd'hui.
Hein. Oui, il y a moins de pièces maintenant, effectivement. Hein. C'est fini les 6 pièces, on est descendu à 2, 1, voire pas du tout du côté d'Attainville. Hein.
Ouais. Mais il y a toujours des cabines. Elles sont plus tirées par des charrettes.
Des cabines,
mais...
oui, on a toujours des cabines sur cette plage de Carteret. Alors la plage de Carteret en particulier, une plage familiale avec effectivement une kyrielle de cabines familiales également. Et puis au milieu de tout cela, l'ancien établissement des bains de mer construit en 1913 qui s'appelle la Potinière, bien évidemment. C'était un établissement de bains de mer de 1913 jusqu'à la guerre. Ensuite, ça a été restructuré et c'est devenu un établissement, un restaurant, bar lounge qui a les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable. Et c'est juste un endroit fantastique, magnifique, où les gens viennent également un petit peu de partout, du département de la Manche, de la Normandie et puis également beaucoup de Paris.
Et Christophe Guillaumard, elle est à combien l'eau ce matin, là, ce midi à 13h37?
Allez, on va dire qu'on est à 16 degrés.
16? Ah oui, donc c'est frais quand même.
Non, ouais, mais ça fait du bien. Il fait quand même, bon, il fait 24-25 extérieur. Il y a un petit vent. On est vraiment bien à l'intérieur de l'eau.
Et vous disiez, est-ce qu'il y a des touristes aussi de plus loin, européens, étrangers, qui connaissent le Cotentin, qui y viennent progressivement?
Et oui, ça devient vraiment un endroit vraiment à la mode. Hein. Alors, il y a pas mal d'Anglais. Alors, tous les Jerseyais viennent, bien évidemment, c'est juste en face. Les Anglo-Normands, mm-hmm. Il y a également les Anglais, donc de l'Angleterre. Beaucoup de Belges, de Néerlandais et d'Allemands qui viennent également profiter des bains de mer ici à Carteret. Parce qu'ici, on est un petit peu en retrait, on est bien. C'est un paysage vraiment sauvage. Et les gens viennent chercher ici l'apaisement et la tranquillité.
Et ce n'est pas trop fréquenté à votre goût, parce que comme vous le dites, ça devient un petit peu célèbre, et la preuve, c'est qu'on en parle nous aussi encore aujourd'hui.
Mais oui, je vous en remercie. Non, c'est bien fréquenté. C'est, en l'occurrence, voilà, on est plutôt dans les bonnes normes, je dirais. C'est vrai qu'en juillet, en août, il y a quand même beaucoup de monde, ici à Carteret, sur la plage en particulier, qui viennent profiter de la beauté du site, de ce beau soleil, de ce Gulf Stream, parce qu'on est aussi un petit peu en marge du Gulf Stream, ce qui fait qu'on a une climatologie qui est vraiment spécifique. Lorsqu'on vous donne la météo de Cherbourg qui est pas très bonne, à la Potinière, il fait toujours beau.
Et on peut dire que la Manche a le vent en poupe, parce que depuis hier soir, le village de Saint-Valaougue a été élu le village préféré des Français. Il y avait beaucoup de spectateurs devant la télévision à l'écoute de Stéphane Bern et de ce résultat.
Ouais, 2 300 000 téléspectateurs. Hein. Moi, wow. Je suis un ancien de la télévision, donc je peux vous dire que je suis
un
téléspectateur. Et ça me fait plaisir pour la chaîne que j'aime beaucoup, qui est la chaîne des régions. Donc oui, nous, on s'en réjouit, bien évidemment, hein, de ce palmarès et du fait que Saint-Valaougue gagne ce prix. Et puis moi, je dirais à tous les Français qui ont envie de se promener, de monter dans le Cotentin, d'aller voir Saint-Valaougue, de faire le tour du Val d'Auxerre, de passer par la Hague et redescendre par cette côte des îles et venir faire un tour ici à Carteret, à la Potinière, sur la plage.
Et en tout cas, vous parlez très bien de la Manche, Christophe Guillaumard.
Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. On vous laisse continuer à profiter de cette belle plage de la Potinière, Christophe. Merci beaucoup.
Venez nous voir ici à la Pote.
On vient au frais. À bientôt. À bonne journée. Au revoir, Christophe.
Au revoir.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou. Sur France Bleu.
On voulait donner un premier coup de pédale dans une heure en France avant le départ du Tour de France le 6 juillet à Bruxelles. On s'est amusé en lisant les histoires insolites du Tour de France. On a décidé de partager avec vous.
On ne savait pas que des supporters s'étaient battus à coups de gourdin dans le passé ou avaient envoyé du poivre dans les yeux des coureurs qu'ils n'aimaient pas.
Pour écrire de telles histoires, il fallait un passionné. Il est journaliste sportif. Il est l'auteur donc d'Histoires insolites du Tour de France paru chez City Éditions. Bonjour Sylvain Letouzé.
Bonjour Frédéric et bonjour à Denis.
Bonjour Sylvain, on se rend compte que ce qui a bâti la légende du Tour, ce sont des histoires rocambolesques. Alors, comme le français par exemple Roger Lapébie qui chute en 37 et on apprend que son guidon avait été scié. On a su qui avait fait ça?
Ah bah oui, on l'a su et on l'a même su très vite parce que figurez-vous, il a chuté Roger Lapébie au matin du 19 juillet. On est dans la 15e étape du Tour de France 37. La France et la Belgique, parce que oui, là on parle de pays, de sélection, ce ne sont pas des équipes de marque, ce sont des sélections. Imaginez-vous la tension qui pouvait régner entre les supporters des pays et notamment entre Français et Belges, puisque c'était les deux favoris, Roger Lapébie pour la France et Sylvain Maes pour la Belgique, qui étaient opposés, séparés de rien au classement. Et dans cette étape, entre Poux et Luchon que vous venez de citer, Denis, eh bien, figurez-vous qu'on soupçonne très vite le kiné de l'équipe belge, le soigneur, d'avoir scié le guidon de Roger Lapédie.
C'est incroyable.
Et je peux vous dire que cette étape-là, tout le monde s'en souvient dans les livres d'histoire parce qu'elle est vraiment restée au plus haut niveau grâce, entre guillemets, grâce à ce soigneur.
Ah, Sylvain Letouzé, on sent le journaliste sportif, vous vivez l'histoire quand vous nous la racontez, on adore ça. Sylvain Letouzé, du coup, les spectateurs, Denis le disait tout à l'heure, jetaient du poivre dans les yeux aux coureurs qu'ils n'aimaient pas, c'était un monde sans foi ni loi quand même.
C'est exactement ça. Et ça commence, parce que Denis l'a dit en préambule, ça commence avec la création du Tour. Dès 1903, dès 1904, ils se battaient, ils mettaient des clous sur la route pour laisser passer leurs favoris et au contraire ralentir les concurrents directs de ces mêmes favoris, les supporters. Très vite, en fait, le Tour est devenu quelque chose de national. Très vite, le Tour est devenu une espèce de miroir de ce qui se passe dans la société alors. Et ce poivre dans les yeux, figurez-vous que c'est le lendemain de l'histoire de 1937 avec le guidon scié. Puisque les supporters mécontents d'une pénalité infligée à Roger Lapébie ont tout simplement jeté du poivre dans les yeux des Belges, et bien les Belges, ils ont abandonné le soir même.
Alors, c'est en 1960 que le Tour de France s'est arrêté à Colombelles-les-Deux-Églises. Alors, cette histoire, on la connaît un petit peu quand le Tour s'est arrêté chez le général de Gaulle. Mais alors, vous rajoutez des infos que l'on découvre totalement, et notamment ces étrangers dans le peloton qui connaissaient pas plus de Gaulle que ça, qui savaient pas en tout cas où on s'arrêtait précisément.
Exactement. Figurez-vous que le peloton, évidemment, devant la boisserie du général de Gaulle, tout le monde savait où il était du côté des francophones, mais du côté des Italiens, on n'en savait rien du tout. Et l'histoire, elle est rapportée par un correspondant local de presse qui, lui, est derrière le peloton et pas tout près du général, et qui a tout simplement vu la moitié de l'équipe d'Italie s'en aller faire ses besoins dans les jardins de la boisserie. Imaginez le tollé que cela a provoqué. Ouais. Surtout que dans le même instant, il y a un coureur français qui, lui, savait très bien où on était. Il était attardé, il en a profité pour prendre la poudre d'escampette, c'est Beffeuil son nom, et il est allé gagner à Troyes l'étape, et pour son excuse, figurez-vous, il a dit « J'ai toujours voté le général de Gaulle ». Voilà,
on parlait aussi beaucoup de dopage déjà il y a de nombreuses années. Moi, cette anecdote m'a vraiment interpellée, celle d'un coureur qui a ingurgité 60 litres d'eau en seulement 2 heures, c'était en 1961.
Ouais, j'ai eu peine à y croire quand j'ai vraiment feuilleté tous les articles de l'époque, mais effectivement, 60 litres d'eau ont été ingurgités par Valentin Huot. Mmh. On est en 61, on est dans une étape où il fait très chaud, le 14 juillet 61, entre Bergerac et Périgueux. Et finalement, Valentin Huot, eh ben, le dopage, on en parle presque normalement dans les années 60. C'est bien ça qu'il faut savoir. C'est à partir de 67 et le décès de Tom Simpson sur les pentes du Ventoux que le dopage devient presque tabou, et j'ai envie de dire du jour au lendemain. Mais à l'époque, on parlait simplement de vitamines encore en 61. Et Valentin Huot, terrassé par les amphétamines, sue et ne s'arrête pas de suer. Il remonte à l'hôtel, il fait commander, pour éviter d'éveiller les soupçons, des litres d'eau par ses camarades d'équipe et les fait apporter dans sa chambre. Il en a bu 60 litres pour tenter de se rafraîchir, et figurez-vous qu'au bout de l'histoire, une fois que l'effet des amphétamines était arrêté, eh ben il est remonté sur le vélo le lendemain et il a fini 39e du Tour.
C'est énorme, c'est énorme. Alors, tout ce que vous racontez, c'est un petit peu ancien, c'est-à-dire les histoires énormes, le gourdin, le poivre dont parlait Frédéric. Mais même dans les années 70, il se passe encore des choses rocambolesques. Racontez-nous le ravitaillement à l'omelette dans un restaurant. Mais ça, c'est énorme. Je l'ai relu 3 fois et je n'arrivais pas à le croire.
Eh ben, si, figurez-vous que ça se faisait souvent dans les années très anciennes, comme vous venez de le dire, Denis, mais voilà, après, à partir du moment où le Tour a pris un virage un peu plus professionnel, un peu plus technique, un peu plus financier, ça ne se faisait plus. Bah, figurez-vous qu'en 1970, le 16 juillet, on est à 3 jours de l'arrivée du Tour de France. Eddy Merckx, le Belge, de chez qui le Tour 2019 partira justement en son hommage, est déjà sûr d'avoir remporté ce Tour de France. Et au cœur des Landes, dans l'étape devant conduire le peloton de Moerenx à Bordeaux, eh bien, le ravitaillement donne lieu d'abord à un super canular de Louis Capu, qui est directeur sportif de l'équipe Fagor. Mercier, c'est l'équipe, vous le connaissez tous, de Raymond Poulidor.
Bien sûr.
Eh bien, pour récompenser un de ses équipiers, Raymond Poulidor, en l'occurrence Bernard Labourdette, eh bien, le directeur sportif, il n'a trouvé rien de mieux que de mettre dans sa musette de ravitaillement à Bernard Labourdette, eh bien, un tube d'aspirine, des cailloux et une photo de Raymond Poulidor. Poulidor, lui, avait double dose de ravitaillement. Et figurez-vous que quelques kilomètres plus tard, à la fin de ce ravitaillement, on a retrouvé une équipe complète au restaurant. Arrêtée, l'équipe BIC. Eh bien, tout simplement, leur directeur sportif, pour les récompenser de leur performance sur le tour, avait dit « On s'arrêtera dans ce restaurant-là et on partagera tous une omelette. » Chose qui n'a évidemment pas fait rire Félix Lévitan, le directeur de l'épreuve. 30 secondes de pénalité pour chacun.
Ah, c'est énorme, énorme.
Ah, y a évidemment, tout le livre est truffé d'anecdotes. Vous nous les racontez avec passion. Du coup, j'ai envie de vous questionner sur la suivante. Anquetil et le mage, ils sont superstitieux, les coureurs?
Ah bah lui, il l'était énormément, Jacques Anquetil. Il l'était énormément. Là, on est dans les Pyrénées sur l'anecdote que vous venez de dire. Et cette année-là, il se passe plein de choses dans la vie d'Anquetil. C'est assez compliqué et tout ça. Et voilà qu'il rencontre un mage qui lui prédit une chute, figurez-vous. Mmh. Eh bien, Anquetil, comme énormément de coureurs, et c'est encore le cas aujourd'hui, figurez-vous, c'est encore le cas aujourd'hui, eh bien, il a été sur la retenue et sur le frein pendant toute l'édition du Tour, parce que le mage lui avait dit qu'il allait tomber, qu'il allait perdre le Tour. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme le mage l'avait dit, et vous allez pouvoir découvrir toute la suite de cette anecdote avec Jacques Anquetil, qui fait partie, évidemment, des monuments de ce Tour de France.
Ah, j'en ai encore une, moi, qui est beaucoup plus récente.
Il faut s'arrêter, il faut en laisser au lecteur.
C'est le trophée du Tour de France volé, ça c'était l'année dernière.
Ah bon?
Allez, c'est la dernière, je veux bien vous la donner, c'est la dernière. Eh bien oui, figurez-vous, Geraint Thomas, le tenant du titre, le Gallois, il remporte le magnifique trophée du vainqueur du Tour. C'est un vase de Sèvres, 24 carats, doré, qui est remis chaque année au vainqueur du Tour. Eh bien, Geraint Thomas, il le prête à une grande marque de vélo, à Birmingham, en Angleterre, pour une exposition. Et figurez-vous qu'à la remballe de l'exposition, 2 minutes sans surveillance, vase disparu, volé. Eh bien, figurez-vous que sur Twitter, le premier à répondre à ce larcin, c'est Lance Armstrong, le vainqueur déchu, le septuple vainqueur déchu, jamais avare de bons mots et de provocations. Il lui a dit « Guérin, si tu as besoin d'un trophée, j'en ai 7, je peux t'en prêter un. »
Ouais, bonjour l'humour.
Si, c'est génial.
En tout cas, c'est la première fois que je vois Frédéric Le Tornier se passionner à tel point pour le Tour de France.
Ça, c'est certain.
Merci Sylvain Letouzé, auteur de Histoire insolite du Tour de France, paru chez City Édition.
On va le regarder d'un autre œil cette année, le Tour de France, grâce à vous. Merci Sylvain Letouzé, merci beaucoup.
Merci à vous, Denis et Frédéric.
À bientôt, belle journée. Au revoir Sylvain.